9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche. C'est donc Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Mabrouk Rajdi.
Bonjour Samia Messaoudi.
Merci d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM pour ce rendez-vous avec Voix au chapitre et nous allons parler tout au long de notre rencontre ce matin de Tous les mots qu'on ne s'est pas dit. C'est le titre de votre roman. Il vient de paraître aux éditions Grasset. Vous présentez d'abord Mabrouk Rajdi. Vous êtes journaliste au Courrier de l'Atlas, à Jeune Afrique, où vous y faites des chroniques et vous êtes aussi romancier. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, des ouvrages pour la jeunesse également. Alors quand on va parler tout au long de cette présentation à propos de votre livre, peut-être évoquer ces formes d'écriture qui vous animent, puisque passer d'un exercice journalistique à un exercice de chronique, à un exercice de style, j'entends évidemment littéraire, romanesque ou de fiction, ou de récit, on y reviendra. Comment vous travaillez? Il y a un rythme à prendre dans ces formes d'écriture?
Alors moi, j'ai commencé par la forme romanesque. En fait, moi, mon premier roman est sorti en 2006. J'avais une vie antérieure qui était... je travaillais dans la finance en tant qu'analyste financier. Et finalement, le moule dans lequel j'ai dû me couler, c'est celui du journalisme. Apprendre les formats, le nombre de signes, apprendre
la
les
brève,
deadlines, exactement.
La demi-page, voilà. Le double page.
Alors que le roman nous offre une totale liberté. On peut écrire 500, 1000 pages si on veut, 200 pages. Voilà, donc c'est entrer dans ces contraintes journalistiques qui a été plus un effort pour moi que finalement tenir la longueur d'un roman où je n'écoute que mes désirs, que mes envies.
Et les désirs et les envies littéraires sont autre chose que la spécificité du journalisme, de la presse, de la chronique. Il y a un cadre aussi d'écriture. Vous n'êtes pas aussi dans l'imaginaire, vous n'êtes pas dans la fiction quand vous faites une chronique. Si, sans doute, mais oui. Avec une thématique,
oui,
avec
tout à fait. Et vous avez tout à fait raison. En fait, quand on travaille pour la presse, on réagit aux événements où on nous donne un livre et où on réagit par rapport au livre. Alors que quand j'écris un livre, c'est vraiment l'impulsion est la mienne, en fait. Et alors, s'il s'agit de réactions, ce sont des réactions qui me sont propres face à des événements que je veux commenter ou à laquelle je veux réagir selon une forme qui m'est propre, que je choisis et dans le timing que je veux. Il n'y a qu'une seule personne pour me fixer une deadline, c'est moi-même. Il n'y a qu'une seule personne pour me fixer une forme, c'est moi-même. Et donc, je fais usage de cette liberté de ton, de forme, de thème. Et voilà le résultat.
Alors, et dans l'écriture littéraire, on est aussi, c'est bien séparé de l'écriture journalistique. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour écrire, pour le journal, il y a un temps pour prendre la page blanche, enfin l'ordinateur maintenant, pour aller dans une histoire romanesque justement.
Oui, il y a un temps pour tout. Après, parfois, je dois jongler entre les deux parce qu'il y a une forme de régularité.
Vous oblige à
production
quand pour
demande,
le journal.
Voilà, vous parliez du Courrier de l'Atlas. J'écris une chronique mensuelle depuis maintenant 11 ans. Et donc, tous les mois, je dois produire cette chronique qu'il vend par pluie, etc. Voilà, et donc, je suis contraint. Et c'est vraiment un grand plaisir, hein. C'est une contrainte heureuse de produire cette formidable chronique qui me ressemble aussi beaucoup. Mais c'est très très intéressant, hein, parce que les deux finalement peuvent se nourrir. J'ai appris grâce aux contraintes du journal que finalement parfois on a cette image de l'inspiration. On attend l'inspiration, etc., etc. J'ai relu parfois certains de mes articles où je me sentais pas particulièrement inspiré et quelques années après, je me suis dit « Ah, ils sont plutôt bien faits ». Et au contraire, parfois je me sentais ultra inspiré et après, quelques années après, je les relis, je dis « Ah, peut-être pas si terrible que ça. Donc parfois on s'imagine sur le moment qu'on était en train d'écrire quelque chose de formidable et ça ne résiste pas forcément autant, en tout cas au regard qu'on a sur soi après quelques années.
Il faut relire sa copie.
Je me relis toujours, hein. Après de toute façon je suis un éternel insatisfait. Beaucoup d'auteurs que je connais sont des éternels insatisfaits. Il faut vivre aussi avec le fait que le texte parfait n'existe pas, et c'est aussi une leçon de modestie, d'humilité que nous apprend l'écriture. Il faut vivre avec ses imperfections.
Tous les mots qu'on ne sait pas dit, le titre de votre livre Mabrouk Rajdi vient de paraître aux éditions Grasset, je le rappelle. Le présenter rapidement et vous nous le développerez au fil de ces questions. C'est une histoire familiale d'immigration. J'allais presque dire elle ressemble à tellement de vies de nos auditeurs, nos auditrices. Être partagé entre penser l'Algérie, aimer la France, être dans l'exil, mais se souvenir de la vie en Algérie, être en banlieue, puis penser à l'usine aussi. Telle est la vie de Mohand et Fatima Asraoui, puisque ce sont les parents dans ce livre. C'est la vie de ses parents et de la famille, j'y reviendrai, qui sont évoquées, qui se déroulent en 203 pages, et en réalité qui se déroulent le temps d'un voyage sur un bateau qui longe la Seine pour aller jusqu'au grand plaisir de Fatima, voir la Tour Eiffel. Voilà pour la présentation. Juste peut-être, dans une histoire familiale aussi douce, aussi en même temps forte dans ce qu'a traversé cette famille, il y a quelque chose, je viens de le dire, les parents pourraient s'y retrouver, les auditeurs, auditrices pourraient s'y retrouver, mais c'est une histoire romanesque, c'est pas un récit, donc c'est pas votre vie propre. Est-ce qu'elle peut ressembler à votre vie, l'histoire que vous nous inventez là ?
Alors je me suis vraiment amusé à brouiller les pistes entre réalité et fiction. Je me suis servi d'éléments de la réalité. Par exemple, l'histoire de la péniche, louer une péniche pour remonter la Seine jusqu'à la Tour Eiffel que la mère n'a jamais vue. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé. Je me suis aussi, il y a un le narrateur qui s'appelle Malik, qui a travaillé dans la finance, qui s'arrête pour écrire.
Vous ressemble.
Voilà, exactement, un premier roman qui s'appelle Le poids d'une âme. C'est mon voilà. Mais après, j'ai rajouté des choses et j'ai inventé des choses parce que moi, si je devais écrire l'histoire de ma famille telle quelle, moi, je n'ai qu'amour et respect, admiration pour ma famille. Et je pense que ce serait un hommage pur, mais qui n'aurait rien de littéraire. Moi, j'ai besoin de chiffonner un peu mes personnages. J'ai envie de les mettre face à des dilemmes. Avec ma famille, je ne pourrais pas. Ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, je ne pourrais pas. Donc, pour.
Là, on a bousculé un peu. Peu la fratrie quand même.
Voilà, exactement. J'ai besoin de ça, en fait. Oui. Et j'ai besoin de cette fiction, sinon ce serait quelque chose de très, très... un pur élan d'amour, mais qui n'aurait pas à voir avec la littérature, moi, que j'aime, où il peut y avoir des tiraillements, où il peut y avoir des personnages sympathiques, mais aussi antipathiques, où il y a des gens qui montent leur face aussi obscure. Donc j'ai besoin de ce pas de côté par rapport à la réalité pour décrire des personnages de littérature.
En même temps, ces personnages de littérature, je le répète, sont dans une réalité. Vous venez aussi de le souligner avec Brouiller les pistes. Comment vous pensez que vous auriez pu observer dans cette fratrie les frères et les sœurs, qui sont pas dans le même moule. L'un est un doux rêveur, il veut devenir écrivain, tandis que l'autre est dans les affaires et a une carrière magnifique, et il en veut toujours plus dans sa carrière, il veut racheter des grosses boîtes, enfin tout ça. Donc il y a des différences dans la fratrie qu'on peut retrouver dans une réalité en même temps.
Ah oui, et c'est vraiment le but, hein. À un moment, c'est...
Faut que ça soit crédible, d'une
certaine manière. Faut que ça soit crédible, plausible. Moi, j'anime des ateliers d'écriture et j'aime bien faire un exercice aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, c'est raconter une histoire vraie et raconter une histoire fausse. et après vous passez devant le reste du groupe et on va essayer de deviner quelle est l'histoire qui est vraie et quelle est l'histoire qui est fausse. Et comment vous avez construit, après on réfléchit, comment avez-vous construit l'histoire vraie ou fausse, etc. Et parfois, une méthode, c'est de s'inspirer en fait de la réalité et de la faire dériver. C'est exactement moi ce que j'ai fait. Mais après, pour que ce soit crédible, effectivement, il faut ramener à l'expérience commune, sa propre expérience ou d'expérience qu'on connaît. Et donc, c'est là où j'essaye de mentir vrai ou de dire la vérité avec un peu de mensonge, je sais pas en fait comment. Voilà, c'est un dosage. Mais après, je me suis promis de jamais dire totalement ce qui est vrai, ce qui est faux. Le but, c'est pas de
même
savoir.
Même ce matin.
Voilà. Non, mais la vérité, c'est la vérité du littéraire. Après, le reste, savoir.
Et chaque lecteur, lectrice va trouver son compte dans une lecture, quelle qu'elle soit. Voilà. Ce livre ou un autre.
Voilà. Est-ce que ce que vous dites est très vrai. En plus, vous avez ramené à l'expérience commune des familles issues de l'immigration, et c'est très vrai. J'ai eu ces retours de personnes. Par exemple, il y a une toute première scène où il y a un oncle qui vient, l'oncle Yacine, sans prévenir, et il reste pendant un temps indéterminé. Donc on ne sait pas s'il va rester un jour ou trois mois. Et beaucoup de gens m'ont dit, c'est quelque chose qui est arrivé dans ma famille, etc. Mais vraiment plein de gens. Mais là aussi, au-delà des personnes issues de l'immigration, il y a des gens qui m'ont dit, mais je me suis reconnu dans certains personnages, où j'ai reconnu des gens dans certains personnages, parce que ce n'est pas que... où il y a aussi une question universelle. Il y a des êtres humains, en fait. Et donc, vous parliez tout à l'heure de l'ambition d'un personnage dévorant, jamais satisfait, c'est Kader, qui veut le monde, et voilà, mais ça existe un peu partout, ou des doux rêveurs qui chassent un idéal, voilà, c'est j'ai aussi voulu parler de la condition commune, la condition humaine.
Bien sûr, parce que dans le fil de ce voyage en bateau pour aller jusqu'au bonheur pour la mère de voir la Tour Eiffel, mais je raconterai pas tout, il y a vraiment une sensibilité des personnages qui est vraiment très qui m'a moi profondément touchée, parce que ça ressemble tellement à nos vies, je le rappelle encore, mais en même temps il y a l'histoire, et je crois que la construction même du roman est intéressante, puisque d'un chapitre à l'autre, en fait, c'est les ponts que traverse le bateau, que le bateau traverse la Seine, passe les ponts, et à chaque fois qu'on passe un pont, on passe une période d'histoire, et je trouvais ça absolument extraordinaire. Alors, on est dans un temps en Algérie, encore dans cette Algérie dans la guerre, un peu plus tard, sous un autre pont, on va être en France déjà, l'arrivée, etc. Et je trouve que cette construction, elle était très habile et très, très poétique en même temps.
Merci. Oui. En fait, j'ai vraiment voulu construire cette remontée de la Seine comme aussi une remontée du temps. Mais le temps est déconstruit, il n'est pas chronologique.
C'est des périodes, effectivement.
Exactement. Hein. Et on peut passer de 1962 à un peu plus tard 1970, et après revenir à la guerre, etc. Parce que le sens, en fait, l'histoire familiale ne se comprend pas forcément de façon linéaire dans la chronologie, mais de façon déconstruite.
Parce qu'elle se construit aussi avec des souvenirs.
Exactement.
Et c'est comme ce voyage sur la Seine, c'est aussi les souvenirs qui reviennent.
Exactement. Et les souvenirs ne suivent pas un ordre forcément chronologique. Et moi, j'aime bien aussi l'idée que la ville parle de son histoire. Moi, je dis souvent aussi aux gens... qu'il faut regarder le nom des rues, le nom des ponts, raconte une histoire.
Mabrouk Rajdi, tous les mots qu'on ne sait pas dit, c'est le titre de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions Grasset. On vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Mabrouk Rajdi. Il est l'auteur du livre « Tous les mots qu'on ne sait pas dit » qui vient de paraître aux éditions Grasset. Je rappelle que ce livre, ce roman raconte une saga familiale, on peut le dire comme ça. Hein. C'est la vie de Fatima et Mohand, et ses 10 enfants. Et je rappelais que cette histoire se déroule en fait sur une traversée de la Seine. C'est pour les 70 ans de Fatima que un des frères a organisé un rendez-vous d'anniversaire avec cette envie de traverser la Seine. Et je rappelais que sous les ponts, chaque fois que la Seine, que le bateau passait un pont, c'était une tranche de vie de cette famille. Dans l'histoire non chronologique, vous l'avez rappelé, Mabrouk Rajdi, mais qui sont des temps importants de cette famille. Et c'est ça qu'il faudrait souligner maintenant. Il y a cette partie, il y a la guerre, il y a la vie en France, il y a la guerre violente, avec ce qu'a subi aussi Fatima, évidemment, qui était le lot de beaucoup de femmes avec l'armée française, on va le dire comme ça, et qui après, quand elle arrive en France, il faut vivre dans l'exil et le père est ouvrier, etc. Et donc, il y a toutes ces séquences de tranches de leur vie familiale. Comment vous les avez inventées, justement, ces histoires, tant elles nous ressemblent?
Alors, déjà, il y a des moments de l'histoire franco-algérienne qui étaient indispensables pour moi. Donc, la guerre d'Algérie, 17 octobre 1961, ici en France, mais qui a concerné les Algériens. Il y a eu aussi ce mythe du retour, aussi l'élection de François Mitterrand. Il y a eu donc des jalons comme ça de la grande histoire. Mais j'ai aussi tenu à parler de trajectoire personnelle, la singularité de mes personnes. Personnage est très très importante et il peut y avoir des choses qui n'ont absolument...
C'est eux qui nous racontent le 17 octobre 61, le père était appelé à la manifestation, etc.
Voilà. Mais par ailleurs, il peut y avoir la diffusion, par exemple, du clip de Michael Jackson, Thriller, qui a un rôle dans la construction psychologique d'un des personnages. Ça ressemble en fait à la vie, quoi. On n'est pas que façonné par la grande histoire, mais aussi par des faits ou des traumatismes personnels. Donc c'est ces failles aussi personnelles que je veux explorer. Donc chaque personnage a sa trajectoire singulière, et cette singularité pour moi est très très importante. C'est ce qui fonde mon travail d'écriture en fait, en tant que témoin essayer de raconter un peu l'histoire, de les faire traverser ces périodes historiques qui ont marqué l'histoire tumultueuse, douloureuse et parfois aussi joyeuse de la France et de l'immigration. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le côté aussi joyeux, parce que on pourrait s'imaginer que l'identité de cette famille s'est fondée de traumatisme en traumatisme. Non, il y a aussi des moments heureux, et l'acte fondateur, c'est aussi Fatima qui est promise à un cousin et qui refuse en fait, et pour se marier avec ce rêveur aussi de Mohand qui raconte des contes. Et voilà, c'est un acte d'amour qui fonde aussi la famille.
C'est d'ailleurs Mohand qui a donné envie à ce rêveur de devenir écrivain.
Peut-être, ça, on
le
suggère. En tout cas, on le suggère. En tout cas, c'est que quand on a effectivement un père conteur qui vous berce de ces histoires, il peut y avoir en fait des répercussions, une transmission. Mais voilà. Mais c'est ce qui est intéressant de voir, et on le voit dans toutes les familles. Là, et ce qui est intéressant de prendre une famille nombreuse de 10 personnes. Toutes ces histoires ont été racontées à tous les membres de la famille. Il se trouve qu'il y en a un qui veut devenir écrivain, tous les autres non. Donc c'est aussi les mystères de la transmission.
Mais de la transmission et puis de la singularité. Vous avez raison d'avoir évoqué l'idée que, à la fois dans les personnages et dans la vie de Fatima et de Mohand et de ses 10 enfants, il y a une singularité. Parce que trop souvent, on a tendance à parler de l'immigration sociologique. C'est un groupe... comme ça. Et chaque famille est différente. Dans chaque famille, il y a une histoire particulière. On a une singularité, on a un regard sur le pays d'origine, on a un regard sur l'histoire, on a un regard sur sa vie, dans la cité, dans le quartier, dans ses relations avec les uns les autres. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Y compris, par exemple, dans un chapitre, il est raconté cette vie ouvrière de Mohand avec le français qui va devenir son ami. Mais au départ, c'est troublant d'ailleurs cette histoire de... On l'appelle Biko, et puis après, il comprend pas ce que veut dire Biko. Il pense que c'est un mot gentil, et effectivement, il y a quelqu'un là qui va dire arrête de dire Biko, c'est une insulte. Et je trouve que c'est fort, ça, parce que ça va ancrer une relation intéressante dans, dans le rapport avec les Français que va vivre Mohand, il me semble.
Oui, oui, voilà. Il y a aussi une condition sociale partagée, voilà, qui fonde un sentiment de communauté, hein. Donc, il y a pas, la communauté ne se fonde pas que par les affinités d'origine, de nationalité, mais voilà, il y a aussi une condition sociale. La condition ouvrière a été un ferment. Et moi, j'ai la chance de beaucoup voyager en France pour accompagner mes livres. Et quand on va dans des villes comme Sarreguemines ou de certaines villes du Nord, Saint-Avold ou des choses comme ça, il y a vraiment une condition ouvrière, il y a vraiment une fierté ouvrière qui s'est construite et qui a traversé les nationalités et les origines. Ce qui ne veut pas dire que en fonction des origines et des nationalités, il n'y a pas eu des différences de traitement par ailleurs. Ça, c'est clair, que et on le voit dans certaines mines et comment ont été traitées les pensions de certaines personnes, par exemple marocaines, etc., qui ont été maltraités, mais dans la mine et après les mines, c'est vraiment, c'est des histoires qui sont tragiques, mais voilà, j'ai pu être témoin, moi, visuellement, de cet sentiment de communauté. J'ai pu en entendre parler, j'ai pu entendre aussi ces témoignages, ces mémoires de la condition ouvrière, et c'est aussi ça, je veux aussi rendre, en parler de ça, et cette relation entre ce communiste grande gueule Gérard, donc, et cette personne qui vient d'Algérie, qui lui aussi est militant à sa façon, mais qui essaye de taire un peu son militantisme parce qu'il ne rêve que de faire revenir sa femme, donc il veut pas faire trop de vagues. Hein. Donc voilà, c'est se créer cette amitié, cette fraternité même, très forte entre ces deux personnages.
Et après, il y a ces périodes, vous l'avez rappelé, qui sont les périodes à la fois historique, social, on vient de le dire, mais les périodes de la vie, de l'immigration, de la vie de cette famille. C'est la banlieue, c'est la cité, c'est le quartier. Qu'est-ce qui va se passer là? Il y a un tournant important aussi dans un chapitre sur la banlieue. Il y a les émeutes, il y a comment les uns les autres vont parler des émeutes. Chacun n'a pas la même pensée, oui, sur ce qui s'est passé dans ces quartiers.
Voilà, et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi cette période-là, parce que pour moi, tous ces épisodes aussi parlent à notre passé. Les cicatrices mal guéries du passé peuvent rejaillir en fait à travers des épisodes d'émeutes ou de manifestations. Elle peut prendre différents genres, différentes formes. Donc, on voit dans cette famille, hein, en fonction aussi de sa condition sociale. On peut avoir un regard différent. Ceux qui sont restés en banlieue peuvent avoir un regard différent que ceux qui en sont partis et qui quelque
part. Ceux qui s'en sont sortis finalement, ceux qui en sont partis.
Voilà, et qui peuvent jeter et qui peuvent oublier un peu parfois pour certains tout ce parcours un peu difficile, toute cette vie qu'ils ont vécue en banlieue, et ne voir que la surface des choses. Donc la violence dont on parle au moment du livre, en octobre 2005, donc ça crée aussi du conflit dans le dialogue un peu difficile entre certains frères et certaines sœurs.
Alors, entre Mohand et Fatima, c'est une belle histoire d'amour. D'ailleurs, il lui fait comprendre dans des images qui sont assez jolies d'ailleurs, parce qu'il lui dit qu'avec un bandeau, le bandeau de Brigitte Bardot, elle lui ressemble. C'est quelque chose d'assez magnifique. Alors qu'on sait à la fois la timidité ou la retenue qu'ont dans les familles dans ce monde maghrébin, etc., de ne pas dire à sa femme tu es belle, je t'aime, etc. Là, il lui dit avec le bandeau de Brigitte Bardot, là, tu lui ressembles. Je trouve ça extraordinaire.
Oui, voilà, c'est vraiment
quand elle est toute jeune,
voilà, est un personnage atypique, et on voit que voilà, Brigitte Bardot a été un personnage. malgré ce qu'elle est devenue aujourd'hui, hein, je veux dire,
elle était jeune à l'époque.
Exactement. Et donc, elle est dans l'imaginaire collectif de l'époque, dans les années 50, 60. Et donc, voilà,
c'est Alain Delon, les Jean Gabin l'ont été pour les anciens, pour les Chibani.
Voilà. Et donc, il en est question aussi là, parce que ce sont des icônes. Hein, donc, voilà, le bandeau de Brigitte Bardot jouera un rôle décisif dans ce roman. Alors, je ne vais pas dire lequel, mais voilà, même les objets qui paraissent totalement anodins peuvent avoir un rôle dans une construction identitaire et personnelle.
Et Fatima, comment va-t-elle vivre tout cet univers avec ses enfants au travers les passages dont on vient de parler avec son mari qui va la quitter bien avant elle, puisqu'il va partir je sais plus exactement combien de temps avant qu'elle... bien longtemps.
Ouais, bien longtemps avant. Mais Fatima reste vraiment une énigme, en fait.
Hein. Voilà,
elle ne s'exprime pas beaucoup et elle a vécu des choses pendant la guerre d'Algérie dont elle ne parle pas. À un moment, elle se mure dans le silence pendant la guerre. Personne ne connaîtra le sens à donner à ce silence. Et ça fait aussi partie de tous les mots qu'elle n'a pas dit, et alors je ne vais pas dire qu'est-ce qui se cache derrière ce silence, mais c'est aussi ce roman, cette lente découverte d'un secret familial qui a pesé, bien qu'il n'ait pas été révélé.
Mais après quand on passe dans la séquence où il était question justement de la guerre d'Algérie, il y a la violence qui est évoquée quand même, et voilà, et ça, on se doute qu'il y a quelque chose de silencieux justement qui va peser tout au long de la vie de Fatima, bien sûr.
Oui. Et de toute façon, la guerre est un traumatisme en soi. La vivre, parce que elle, Fatima, pendant toute la guerre, elle était en Algérie, elle était dans son village. Et, son mari, lui, est parti avant, France pour travailler et pour la faire revenir. Donc, elles ont été séparées. Donc, cette séparation-là, d'ailleurs, a un rôle. C'est pas facile d'être séparé pendant 8 ans et vivre sous la guerre. Pendant la guerre, c'est vraiment une expérience traumatisante, hein. Indépendamment même de ce qu'on peut vivre soi-même. Je veux dire que on assiste à des scènes terribles. Enfin, je pourrais avoir parlé avec des gens qui ont vécu ce genre de situation pendant la guerre. On ne s'en remet. C'est un souvenir qui reste et ça conditionne beaucoup de nos comportements après.
C'est un marqueur dans la vie sociale.
Voilà,
exactement. Après, bien sûr.
Alors j'avais commencé par dire on ne s'en remet jamais, je ne veux pas être aussi définitif que ça, parce que on continue de vivre, on a une forme de résilience. Ouais. Mais en tout cas, ça vous avez dit le mot, c'est un marqueur.
Mabrouk Rajdi est l'invité de vos chapitres ce dimanche matin et nous parlons de tous les mots qu'on ne s'est pas dit. Ce livre vient de paraître aux éditions Grasset, on le retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Toujours avec Mabrouk Rajdi, nous parlons de tous les mots qu'on ne s'est pas dit. C'est le titre de son ouvrage, il vient de paraître aux éditions Grasset. Tout au long de ce Voix au chapitre, ce dimanche matin, on a évoqué le parcours, la vie d'une grande famille, d'une saga familiale qui a quitté l'Algérie, qui est venue s'installer en France et on connaît la vie maintenant de Mohamed et Fatima, de ses 10 enfants, une grande fratrie, et ce rendez-vous pour l'anniversaire. On va pas tout raconter, mais quand même donner des pistes, hein, pour donner envie à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Pour les 70 ans, donc, la famille va décider d'offrir une tour Eiffel, au sens voir la tour Eiffel, puisque c'est son rêve à Fatima. Et elle va, il va se passer cet anniversaire magnifique. Enfants, petits-enfants vont être là, réunis et la vie défile sur la scène et passe les ponts jusqu'à la tour Eiffel. Un mot sur ce sentiment qu'avait Fatima. D'abord, elle n'était pas au courant du tout. C'était une belle, belle surprise, évidemment, pour elle.
Oui, c'est une surprise. Offrir la Tour Eiffel, c'est une jolie formule. Vraiment, bravo, Samia. Mais c'est aussi la Tour Eiffel. Elle a un rôle dans sa vie personnelle, mais symboliquement, c'est aussi un rêve français. Et c'est se dire que cette personne, qui est venue en France, à Paris, et n'a jamais vu la Tour Eiffel jusque-là. Elle était si loin et si proche de ce rêve français, finalement. C'est ces personnes qui ont grandi en France, mais dans un monde à part, et avant même son départ en banlieue. Quand elle était à Paris, elle était dans ce monde à part. C'est aussi ce monde à part que j'ai voulu montrer, cette séparation qui a été subie. Je veux dire, à un moment, quand on parle de communautarisation, c'est des choses qui ont été si ce n'est décidé, en tout cas très fortement orienté politiquement. Et j'insiste aussi sur la question politique, hein, parce que au-delà, il y a donc une histoire, un roman évidemment, et auquel j'essaie de donner un sens. Hein, et
mais il y a de l'engagement aussi dans cette écriture.
Hein. Et l'engagement là, pour le coup, est peut-être très très simple, très dans le sens où aujourd'hui écrire sur une famille issue de l'immigration, une famille de l'immigration, de façon simple, comme des êtres humains qu'ils sont de toute façon, ça devient un acte politique dans une France qui instrumentalise, voilà, et qui instrumentalise beaucoup. Certains, on l'a vu lors des élections présidentielles et aujourd'hui législatives, comment ces questions sont traitées, maltraitées, comment ces questions sont finalement les grandes questions qui traversent la France, les grandes questions sociales, etc., sont grand remplacées finalement par cette question d'identité. Donc c'est aussi un acte de résistance, écrire ce livre-là, une résistance très modeste, hein, j'en suis bien conscient, mais quand j'entends des gens qui me disent, alors dans des personnes de l'immigration qui me disent oui, on se reconnaît, c'est un grand compliment, et quand des personnes aussi qui n'ont pas d'histoire de l'immigration, en tout cas pas d'immigration algérienne, qui me disent voilà, vous redonnez une humanité à ces personnages, une humanité qui est évidente, hein, on est tous humains, mais quand on entend certains discours, c'est plus évident que ça. Donc juste parler de façon apaisée, de parler de difficultés, mais aussi d'amour, de parler de choses qui se font, qui se créent, qui se construisent, ça devient, dans la situation délétère dans laquelle on est, devient un acte politique.
Et justement, dans cet engagement, dans cette écriture, parce que moi, il y a de l'émotion, il y a de la poésie, et il y a de l'engagement, et vous venez de le rappeler, Mabrouk Rajdi, je pense que c'est aussi j'allais presque dire, c'est... Allez, si je dis, c'est mieux qu'un livre d'histoire de l'immigration. Ça donne d'abord de la hauteur à la littérature, il me semble, parce que souvent des jeunes, bon, voilà, quand on dit, ouais, on va vous parler de l'immigration, bon, ça peut les barber un petit peu, mais quand on leur dit, vous allez lire tous les mots qu'on ne sait pas dire, ben ils vont comprendre. Je pense que vous avez fait des rencontres dans des salons, dans des classes, avec des lectures, peut-être des extraits du livre. Je trouve que, à la fois comme on décrit là les chapitres, voilà, ça parle après à, ça parle aux jeunes, ça parle, et pas que aux jeunes issus d'immigration, ça doit parler à tous et à toutes, quoi.
Oui, et c'est vraiment l'idée, hein, du roman, partir de la matière humaine pour parler à tous. Alors, je ne dirais pas que c'est mieux qu'un manuel d'histoire, parce que c'est très important, et c'est pas à vous que je vais le dire, et historienne et émérite, et voilà, que l'histoire est très importante, et écrire l'histoire telle qu'elle est, indépendamment du roman, est très très important.
À l'idée d'être accessible sur.
Voilà, exactement. Voilà, mais c'est complémentaire en tout cas, et c'est vraiment, moi, ça l'idée. Vraiment, c'est d'offrir une autre porte d'entrée à l'histoire. L'histoire d'ailleurs pour elle-même, hein, je fais pas un cours d'histoire, et ce n'est pas que vous allez apprendre les dates importantes. Non, je vais essayer de vous bercer dans une histoire. Vous allez, j'espère que vous l'aimerez, mais si aussi vous apprenez quelques jalons dans cette histoire, l'histoire franco-algérienne, c'est toujours du bonus. Mais voilà, et vous le dites, c'est vraiment une porte d'entrée très importante. Moi, j'ai aussi la chance de faire beaucoup de rencontres scolaires, et donc dans des salons, d'échanger beaucoup, et de voir aussi les manques qu'il y a dans la connaissance historique. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, même parler à des personnes jeunes issues de l'immigration algérienne, de la guerre d'Algérie ou de la colonisation algérienne, les dates, les circonstances ne sont pas toujours connues, et c'est même très rarement connu. Et donc, juste parler, juste dire ce qui s'est... voilà, et juste raconter une histoire, ça peut rapprocher. Donc et aussi moi j'aime bien dire aux jeunes, j'avais écrit aussi un autre livre qui parle livre jeunesse, spécifiquement jeunesse, qui s'appelle Toutes les couleurs de mon drapeau, qui parle de cette relation franco-algérienne, cette immigration franco-algérienne. Et et la leçon de ce livre jeunesse, c'est vous avez aussi des points d'accès à l'histoire qui sont vos propres familles. Vous pouvez les interroger. Moi, j'avais été frappé, j'avais été dans un atelier à la Courneuve. C'était des troisièmes. J'avais 10 ateliers pour parler de mémoire et d'identité. 10 ateliers, c'est un luxe. C'était énorme. Et l'idée, c'était de raconter vos histoires. Et alors, nous, dans une classe de 25 personnes, il n'y avait que des personnes issues d'immigration. Et très peu connaissaient leur propre histoire familiale et très très peu connaissaient l'histoire de leur pays d'origine. On parlait de colonisation, ils venaient tous de pays issus de colonisation, qui ont été colonisés, pardon. Personne ou quasi personne ne connaissait, et je ne parle même pas dans les détails, je parle dans les grandes lignes, l'histoire de ces colonisations-là. Et donc... parler, écrire à ce sujet-là peut aussi ouvrir, permet de questionner et permet aussi de faire un pont dans les familles. Quand une belle victoire pour moi, c'est quand quelqu'un me dit, et c'est arrivé beaucoup avec toutes les couleurs de mon drapeau, des gens qui ont dit, je n'avais jamais interrogé ma famille, je suis allé les voir et ils m'ont parlé. Et ce qui est intéressant dans la transmission, parfois la transmission ne se fait pas juste parce qu'on ne pose pas la question. Ouais. Des gens qui sont disposés à parler, pas toujours, hein. Oui. C'est arrivé qu'on me dise je me suis heurté à un mur, mais parfois il y a des gens qui sont disposés à parler, mais qui pensent qu'on ne veut pas forcément les écouter. Poser la question, ça peut ouvrir.
Voilà, absolument. Ça serait presque les mots de la fin, Mabrouk Rajdi, d'interroger ses parents, d'aller vers eux pour leur dire, alors, depuis quand vous êtes là, etc. On le fait dans un travail avec des jeunes dans les quartiers, comme vous le faites si bien. Tous les mots qu'on ne s'est pas dit, c'est le titre de ce livre qui vient de paraître chez Grasset, Mabrouk Rajdi. Un livre en cache un autre. En tout cas, dans les tiroirs, il y a toujours, dernière question que je pose souvent aux écrivains, il y a toujours un autre texte qui sommeille dans un tiroir. On vous reverra pour ce prochain, mais il est en cours ou il y a toujours ces écritures avec la presse, les chroniques, les... Les coups de cœur,
il est en cours et il est fini. Ce sera probablement le prochain, un roman jeunesse hein, que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et qui parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec tous les mots qu'on ne s'est pas dit. Mais c'est aussi ça mon plaisir, hein, c'est d'ouvrir mon propre imaginaire d'explorer différentes formes et différents univers.
Merci Mabrouk Rajdi d'être venu ce dimanche matin pour Voix au chapitre. Merci. Tous les mots qu'on ne s'est pas dit aux éditions Grasset, ça vient de paraître, un livre à ne pas manquer. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.